Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Vous êtes bien sur Point d'orgue. Je vous souhaite la bienvenue pour continuer notre voyage dans les chants de la messe, dans l'ordinaire de la messe. Nous avions vu la semaine dernière le Kyrie et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, et c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit du Gloire à Dieu. Je vous donne tout de suite la traduction de ce que nous allons entendre aujourd'hui qui va être en latin, de sorte à ce que vous puissiez vous familiariser avec le texte. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. J'ai envie de vous dire tout un programme, et un énorme programme. Alors, avant de vous parler un petit peu de musique, on va peut-être parler de cet hymne qui a été souvent qualifié d'hymne angélique. Pourquoi ? Parce que c'est le chant que reprennent les anges à Bethléem. Donc c'est quelque chose de véritablement, c'est comme un cri de joie, vraiment, ce gloire à Dieu. Et souvent, cette joie est extrêmement communicative, et notamment en musique où les compositeurs ont à cœur de faire un texte qui souligne ce chant de louange vers Dieu. Pour rendre gloire, c'est bien ça d'ailleurs les premiers mots, gloire à Dieu. Et dès qu'on entend le début en fait finalement, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, il y a vraiment quelque chose de très jubilatoire, et comme si on voulait expectorer la joie qu'on avait dans la naissance du Christ, véritablement. Alors c'est un chant tout à fait particulier, je vous le disais, il a une petite connotation de Noël, avec cet hymne des anges, hymne angélique, il y a tout à fait quelque chose de l'ordre de la Trinité qui va être incarné dans ce chant même, c'est-à-dire que vous avez la louange du Père, de son incarnation, donc le Fils, et à la fin aussi de l'Esprit-Saint, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, vous voyez, il y a tout le programme, toute la théologie qui est contenue dans ce chant-là, et donc c'est à la fois immense, parce qu'on s'attaque, si j'ose dire, à la totalité du divin, et en même temps, c'est très petit, parce qu'il y a cette idée d'incarnation, et c'est ça qui est tout intéressant dans ce chant-là, c'est le fait de pouvoir monter vers Dieu et de pouvoir lui dire la joie que nous avons, la joie de Noël. Alors aujourd'hui, bien entendu, ce Gloria est chanté tous les dimanches, et également lors des fêtes, donc c'est plus quelque chose qui est spécifique au temps de Noël, mais voilà, historiquement, dans les premières messes, quand on les a chantées, alors notamment en latin, le latin est arrivé au 4e siècle, hein, pour ce chant-là, avant il était dit en grec, eh bien ça a perdu cette connotation de seulement Noël pour aller sur toutes nos messes du dimanche. Alors, puisque on a commencé en parlant de cette période de Noël, alors je prends un petit peu d'avance, hein, et je vais vous parler d'un compositeur extraordinaire, un compositeur français, qui s'appelle Marc-Antoine Charpentier, un compositeur majeur, né en 1643 et mort en 1704, qui est un chanteur, un chanteur, il a composé pour le chant, un compositeur surtout, et il a bien entendu chanté, à l'époque on chantait beaucoup, c'est donc le représentant parfait du baroque français de cette époque-là. Il a travaillé pour le roi Louis XIV et pour les jésuites à Paris, et il a été en concurrence directe avec Lully. Alors, concurrence, je dis ça parce qu'en fait, Lully avait la primauté sur tout ce qui se faisait dans les partitions et les créations françaises à cette époque-là, malgré ensuite un adoucissant qui est passé. On s'est dit, voilà, bon, peut-être que cette hégémonie pouvait nuire. Et donc, Marc-Antoine Charpentier a quand même pu composer beaucoup de choses sans avoir l'autorisation forcément de Lully. Et c'est heureux parce que c'est un compositeur quand même majeur de cette période baroque française, et qui a permis, grâce à son talent, de donner des partitions absolument sublimes que je vous invite à découvrir. Donc là, on va s'attaquer à l'un des grands chefs-d'œuvre de ce compositeur. Il s'agit de sa messe de minuit, et donc plus particulièrement de son Gloria. Vous allez voir qu'il est tout à fait spécial. entre délicatesse, subtilité et jubilation extrême. Par exemple, vous avez ce début du Gloire à Dieu qui est assez extraordinaire. On commence avec le soliste, Gloria in Excelsis Deo. Alors d'ailleurs, il va dire Gloria in Excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Vous allez voir, c'est du latin prononcé à la française. C'est Louis XIV qui avait décrété cela. C'est-à-dire que pour un petit peu cesser cette hégémonie du latin italianisé, voilà, qui était un peu le latin originel d'ailleurs, il a voulu franciser de sorte à presque une diplomatie de la musique, de sorte à montrer qu'il y avait une spécificité française. Donc vous allez l'entendre avec une prononciation à la française qui est tout à fait particulière à cette époque-là, puisque c'est là où elle a été mise à l'ordre du jour, et donc vous allez voir, c'est assez particulier. Donc vous avez le soliste qui commence en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », et le chœur qui va répondre avec une douceur immense « Et in terra pax hominibus bone voluntatis ». Vous avez cette espèce de paix qui va arriver, et après « Laudamus te, benedicimus te », donc là vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus exubérant qui va arriver, et ensuite on va être dans le thème de ce Gloria qui alterne entre soliste et chœur, et bien entendu un petit orchestre baroque. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse l'écouter, donc le Gloria de la messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier. Voilà la musique extraordinaire que je suis heureux de partager avec vous. Voyez bien que là, on a toute cette espèce de gloire qui est démontrée par cette joie qui est souvent inhérente à cette musique baroque. Alors la musique baroque est capable de faire beaucoup plus dramatique, bien entendu, mais il y a cette idée de joie presque dansée, inhérente à cette période-là, qui donne vraiment toute la sensation d'un gloria très festif. Et c'est bien entendu là l'objectif ultime du compositeur, puisque, encore une fois, il s'agit de sa messe de minuit, une messe que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir dans son intégralité. On connaît souvent son Kyrie extrêmement fameux, mais c'est plein de petites perles de joie qui sont disséminées dans toute la messe, et notamment si vous avez l'oreille fine et attentive lorsque vous écoutez cette musique particulière, vous pourrez retentir, vous aurez des petits extraits que vous reconnaîtrez, parce qu'il y a beaucoup de musique populaire. C'est ça aussi qui est extrêmement intéressant avec ce genre de musique dite savante, c'est que finalement, elle est ancrée dans la réalité des gens qui chantent. Et donc pour une messe comme ça, on pouvait reconnaître des thèmes très populaires, reconnaissables par toute l'assemblée, et qui faisaient qu'en fait les gens y trouvaient forcément leur compte. On n'avait pas de procès en élitisme à l'époque, bien entendu. Et là, on avait quelque chose de totalement rassembleur. On avait d'un côté le côté très populaire. Il ne faut pas oublier qu'après tout, si c'était chanté par les anges qui regardaient les bergers s'extasier devant la venue du Sauveur, il y a un côté populaire. Et d'un autre côté, bien entendu, le faste versaillais qui pouvait être bien entendu présent à cette époque-là, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y avait pas mal de commandes royales qui étaient effectuées. Donc voilà, quelque chose d'assez extraordinaire. Et j'aimerais également attirer votre attention, ça je vous le dis pour ce morceau, mais c'est également valable pour tous les autres, étant donné que le Gloria est une hymne, eh bien il n'y a pas de refrain. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez, vous allez à la messe, pour ceux qui y vont, vous avez cette reprise, en général, du Gloire à Dieu, comme s'il s'agissait d'un refrain. Or, étant donné qu'il s'agit d'une hymne, normalement on ne devrait pas le chanter avec une reprise de refrain. On devrait dérouler tout à fait le texte, de sorte à pouvoir dire cette prière, parce qu'en fait il s'agit d'une prière, voilà, d'un bout à l'autre, sans retourner au début. Donc toutes les versions que vous allez entendre sont pleinement liturgiques, et donc on va du début à la fin, sans avoir recours à un refrain. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que c'était quelque chose de à la fois très populaire, mais en même temps très savant, et puis avec cette exubérance baroque propre à ce XVIIe siècle, riche en talent musical, et qui font que voilà, on a des choses absolument merveilleuses. Et là, ce que je voulais aussi attirer à votre attention, c'était les divers artifices que met en place le compositeur. Vous avez tantôt des solistes qui chantent. Alors là, le parti pris, alors ceux qui interprètent cela, c'est bien entendu des pointures dans le domaine, hein. Il s'agit des Arts Florissants dirigés par William Christie, un grand monsieur auquel la musique française baroque doit énormément. Et il a fallu que ça soit un étranger qui nous apporte cela et qui nous fasse redécouvrir un petit peu nos chefs-d'œuvre. Et alors, donc il a fait le choix d'avoir des solistes d'hommes, des solistes avec des femmes. Il y a donc des passages beaucoup plus compacts avec un chœur. Et en fait, ça dit tout de la complexité de cet hymne, avec la Trinité qui est évoquée, avec cet esprit de joie totale. Et finalement, je trouve qu'il y a un rendu assez juste de ce que peut être un Gloria avec cette composition tout à fait particulière de Marc-Antoine Charpentier. Et alors maintenant, on va faire ce que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire comparer, et comparer avec un contraste extrêmement saisissant. On va passer un petit peu du jour à la nuit avec ce que je vais vous proposer maintenant. La semaine dernière, je vous avais fait écouter dans le Kyrie la messe Berliner, la messe de Berlin de Arvo Pärt. On va continuer sur cette lancée, et donc vous allez découvrir le Gloria de cette même messe. Je ne vais pas vous en dire plus, et je vous propose de l'écouter immédiatement. presque deux églises, deux ambiances, j'ai envie de dire. C'est très différent. Et pourtant, vous avez presque la même orchestration. C'est-à-dire que chez Charpentier, alors on a ajouté certes les flûtes, les pipeaux qui représentaient les bergers. Ici, vous avez presque la même chose. On a enlevé les flûtes, donc un orchestre à cordes, ainsi qu'un chœur. Et l'ambiance est totalement différente. Alors on est chez un Arvo Pärt qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus intimiste, presque comme s'il y avait un rapport agonique que moi j'interprète comme étant peut-être ce mystère de l'incarnation. Donc le corps qui a connu la souffrance, le corps glorifié qui a connu la souffrance. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le bois de la mangeoire, c'est aussi le bois de la croix à la fin. Et donc il y a peut-être cette dimension-là que l'on peut avoir chez Arvo Pärt, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement méditatif, contemplatif, et qui implique quelque chose de très 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 différent dans sa façon de voir ici. Alors c'est pas Arvo Pärt qui est extrémiste hein, dans son style. Je vous avais parlé de son style tintinambulique, comme des clochettes avec les voix qui s'entremêlent. Ça, il le fait notamment dans sa Missa Syllabica, que je vous invite à découvrir. Ici, dans la Berliner Messe, c'est extrêmement différent. Et maintenant, on va se diriger vers une dernière composition franco-française, encore une fois. On va retourner à Paris, mais cette fois-ci dans nos temps contemporains. Et je vais vous proposer d'écouter un Gloria un petit peu plus classique, tel qu'il pourrait plus facilement s'entendre dans nos églises, notamment grâce à la présence de l'orgue. Il s'agit ici du Gloria de la Messe brève de Yves Castagnier, interprété par la maîtrise Notre-Dame de Paris.
Thank you.
Là aussi, une œuvre tout en contraste de ce grand compositeur qu'est Yves Castagné, que les Parisiens ont la chance de pouvoir entendre régulièrement. Il s'agit de l'organiste de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris et il compose également beaucoup de choses. Je vous conseille également sa messe Salve Regina, une merveille dans le genre. Mais alors, cette messe brève, effectivement, est assez presque sobre. Vous avez vu, donc, le Gloria est assez court, alors que normalement, c'est une pièce très longue, le plus long étant naturellement le Credo. Mais voilà, il y a ici des développements qui sont réduits à leur strict minimum, des couleurs qu'on reconnaît bien quand on a le style de Castagné un petit peu en tête. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir cette espèce de voyage parisien. Bon, et on est passé bien entendu par la musique de Arvo Pärt, afin que vous puissiez avoir différentes acceptions possibles de ce Gloria, bien loin de la musique que nous pouvons avoir dans nos églises tous les dimanches. Voilà, j'espère que cela vous a plu, et nous allons continuer bien entendu notre trajet dans les musiques de l'ordinaire de la messe, et la semaine prochaine, nous nous attaquerons au Sanctus, là aussi, de magnifiques moments musicaux en perspective. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, et je vous dis à bientôt.